La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la basse marche que j'ai intitulée aujourd'hui La chevauchée du prince noir en basse marche. Pour les textes, nous avons utilisé des ouvrages ou les articles suivants. La chevauchée du prince noir de 1356, recherche de son itinéraire entre La Péruse et le Dora de Nicole Reynaud. Dans les pas du prince noir de Peter Hoskins. Bellac, 10 siècles d'histoire de François Massicot. La monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de Roger Drouot, notice historique sur la ville de la souterraine de Pierre Valado et le Limousin entre France et Angleterre du XIIe au XVe siècle de Robert Chanot.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Est-ce ce fameux prince noir qui, en 1356, en pleine guerre de Cent Ans, va effrayer les populations de notre région? C'est bien après sa mort, en 1376, qu'on le surnommera le prince noir ou Édouard le Noir, sans doute à cause de la couleur de son armure ou peut-être à cause aussi de la noirceur de son âme. En fait, durant la guerre de Cent Ans, on le désigne sous le titre de « Prince de Galles » ou entre 1362 et 1372 de « Prince d'Aquitaine » ou bien encore selon son lieu de naissance, Édouard de Woodstock ou plus simplement, si l'on peut dire, Édouard Plantagenet. Cet Édouard Plantagenet, qui est aussi le comte de Chester et le duc de Cornouailles, est le fils aîné d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut. Élevé dans les activités de tournois et de combats, il commença à guerroyer aux côtés de son père en Normandie dès l'âge de 16 ans, en particulier lors de la fameuse bataille de Crécy. On raconte qu'il manqua être tué et que, par vengeance, il commandera l'exécution de tous les soldats français blessés, incapables de payer rançon. Il n'avait donc pas respecté l'esprit de la chevalerie et c'est, dit-on, après cet épisode, qu'il prit l'habitude de porter une armure noire. En 1335, son père, Édouard II d'Angleterre donc, l'envoya à Bordeaux pour protéger les possessions anglo-aquitaines contre les Français. On le retrouvera guerroyant en Armagnac, en Languedoc, et au printemps 1356, il est de retour à Bordeaux. Et grâce à sa réputation de stratège sanguinaire, il lève une armée composée d'Anglais, de Gallois, mais aussi de Gascons. Et avec cette armée, il part vers Bourges et Vierzon, et bien sûr, le tracé de sa chevauchée passe par notre basse marche.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous allons laisser le prince noir un court instant pour nous intéresser un tout petit peu à la guerre de Cent Ans elle-même. J'emprunte ici le texte à François Massicot dans Bellac, 10 siècles d'histoire. Les Limousins vivaient en paix quand le roi d'Angleterre, Édouard III, donc le père du prince noir, au mépris de la loi salique, revendiqua la couronne de France. Les hostilités commencèrent en 1337, préludant à cette guerre de Cent Ans qui va faire subir à la France la crise la plus effroyable de son histoire. Notre province subit à plusieurs reprises de longues et dures épreuves car dès le début, elle devint une frontière, une marche entre le royaume et le duché de Guyenne. Le duché de Guyenne qui correspond presque à l'Aquitaine, où les armées anglaises et les armées françaises s'affrontèrent. Le prince de Galles, donc notre prince noir, maître Dudorat, cantonne ses troupes à Rancon, à Mortemar, à Janaya. Mais Jacques II, le comte de la Marche, les force à se retirer. Avec le duc Jean de Berry et le fameux duc Guesclin, Louis II de Bourbon gagne plusieurs victoires contre les Anglais. Il leur prend plusieurs villes comme Poitiers, comme Saintes ou comme La Rochelle. Notons qu'en récompense, le roi lui donnera, plus tard, par lettre du 15 janvier 1372, les terres et seigneuries de Bellac, de Rancon et de Champagnac, et toutes les autres que tient dans le royaume Marie de Saint-Paul, dame de Valence, demeurant avec les ennemis en Angleterre. Par la suite, Bureau de la Rivière réalise, lui, plusieurs valeureux faits d'armes contre les Anglais. Il achète les châtelainies à Louis II de Bourbon. Il devient seigneur châtelain de Bellac, de Rancon et de Champagnac, et cela jusqu'en 1386. Notons aussi que depuis 1348, une calamité au moins aussi atroce que la guerre, à savoir la Grande Peste ou la Peste Noire, s'était abattue sur notre pays. Nous y avions d'ailleurs consacré une émission de nos petites et grandes histoires de la basse marche, c'était en décembre 2015. Notons encore que pendant toute cette période de la guerre de Cent Ans, notre basse marche connaît l'insécurité, l'anarchie et le brigandage. En effet, des bandes de routiers, gens de sacs et de cordes, recrutés dans tous les pays et dans toutes les classes, forment de véritables sociétés organisées pour l'exploitation rationnelle de la guerre. Des brigands, protégés par l'Angleterre, séjourneront dans notre région pendant plus de 12 ans.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
L'épisode de la chevauchée de notre prince noir en basse marche se situe donc en 1356, on va dire au début de la guerre de Cent Ans. Rappelons-nous, avec son armée, le prince noir quitte Bordeaux, cela le 6 juillet 1356, pour se rendre vers Bourges ou Vierzon. Et il va donc traverser la basse marche. Il écrit lui-même: nous prîmes notre chemin par le pays de Périgord et de Limousin et tout droit vers Bourges. Son armée, composée de 7000 hommes, cavaliers et piétons, était équipée de nombreux chariots transportant le matériel. Nous allons reprendre là notre récit grâce au témoignage d'un moine, le moine de Malmesbury, qui était dans sa première garde. Nous sommes donc le dimanche 14 août 1356, et nous sommes dans la région de Léther, dans la Charente. La route vers Léther, à 16 km au-delà de la Vienne, fit certainement passer la troupe par Saint-Maurice-des-Lyons. Depuis le XIIIe siècle, Léther était défendue par des murs et des fossés. Elle abritait une abbaye augustinienne fortifiée, également cernée par des murs, avec une porte donnant sur la ville, ce qui faisait d'elle une partie intégrante. Depuis le grand clocher de l'église, nous dit Nicole Reynaud, la population tente de repousser la troupe, mais en vain. Alors, on laisse entrer le prince noir, qui passera même le 15 août à Léther, pour fêter l'Assomption de la Vierge. C'était d'ailleurs le premier jour de repos depuis le départ de Bergerac. 11 jours auparavant, l'armée du prince noir avait alors parcouru 180 kilomètres.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Le lendemain, mardi 16 août, il partit pour Bellac. De Léther à Bellac, la route est marquée par de nombreux châteaux, sur la route même ou à proximité. Parmi eux, citons Le Dognon, Mons, Roche-Lidoux ou Le Fraisse. À propos de ce dernier château, signalons, comme nous le précise Peter Hoskin, que le marquis du Fraisse assure que la destruction du château par les troupes du prince noir est enregistrée dans les archives familiales. Ce château était un vieil édifice en bois datant du XIIIe siècle. Nicole Reynaud, qui a étudié ces archives, n'a pas trouvé les preuves. Pourtant, la construction d'un bâtiment au XVe siècle pour remplacer celui du XIIIe fournit des preuves circonstancielles à l'appui de cette thèse, la thèse de l'incendie du château du Fraisse. Grande question maintenant. Le prince noir est-il passé à Bussière-Beaufy? Il semble bien. Et là, nous nous appuyons sur les études de Nicole Reynaud. Le moine tait complètement la route qui a été empruntée entre les terres et Bellac. Or, des textes des archives du château du Fraisse du XVIe siècle révèlent un itinéraire médiéval qualifié de chemin de Léther à Bellac. Celui-ci borde des terres agricoles qui sont désignées par des toponymes comme la Borderie, Civrac, Le Beau, Les Plagnes. Parfois, ces toponymes se retrouvent inchangés sur le cadastre de 1826, permettant alors de localiser le chemin de Léther à Bellac. Cet itinéraire est aujourd'hui réduit pour partie à l'état de chemin de terre. Certains tronçons n'existent même plus. Il était jalonné de petites fortifications comme la motte du Dognon dans la commune de Léther ou la maison forte de Lavaux. Le bourg de Bussière-Beaufy se situe à 1 km à l'ouest de cette route médiévale. Aussi a-t-il probablement été attaqué au moins par l'arrière-garde. Et c'est sans doute ce que suggère la tradition qui soutenait que le prince noir avait laissé sa griffe sur une pierre de l'église. D'autres appelaient la porte de l'église le portail des Anglais. Il faut dire que le prince noir avait semé la désolation en Limousin et la mémoire collective a longtemps retenu son effroi à l'égard de ce personnage.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le prince noir va également passer par Mortemar. Voici ce que nous en dit Peter Hoskins. Mortemar est maintenant un petit village, mais entre 1325 et 1329, le cardinal Gauvin, un natif du village, fonda des maisons des ordres des Augustiniens, des Chartreux et des Carmélites. D'ailleurs, l'église des Augustiniens est toujours présente, ainsi que le couvent des Augustiniens et des Carmélites, et une partie du château du XIIe siècle, alors protégé par des fossés et un pont-levis. Et il ajoute, il est établi que le château du village de Mortemar fut bien dévasté par l'armée du prince noir.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le 16 août, le prince noir et son armée approchent de Bellac. Le prince noir pouvait avoir trouvé deux ponts sur le Vincoux aux abords de la ville. Le plus à l'ouest est le pont du Vincoux sur la route la plus directe de Léther à Bellac. L'autre, du XIIIe siècle, est le pont de la Pierre sur la route de Mortemar, construit pour le commerce du sel, du poisson et du vin. Le prince et sa troupe vont passer la nuit du 16 au 17 août à Bellac. D'autant que Bellac sera épargné, ne sera pas brûlé, ne sera pas pillé. Alors pourquoi ? Simplement parce que si Bellac était autrefois une possession du comte de la Marche, la ville était passée aux mains de la comtesse de Pembroke, Marie de Châtillon, comme partie de son douaire lors de son mariage avec Aymeric de Valence. Et notons qu'à la mort de son époux, en 1324, la comtesse avait trouvé refuge en Angleterre, tout en gardant la propriété de la ville de Bellac. C'était donc une alliée de Prince Noir et cela permit à la ville d'être épargnée des flammes. Le lendemain, le mercredi 17 août, le prince quitta Bellac et partit vers le nord en traversant la Gartempe à proximité du château de La Chaise, donc en utilisant le pont de Bessa, un pont du XIIIe siècle, à 5 km au nord de Bellac. Ce même 17 août, voici notre prince noir et son armée qui arrivent au Dora. Il y a là un château et une église fortifiée. Les habitants se réfugièrent dans l'église, résistèrent pendant une grande partie de la journée, mais finirent par se rendre. On nous dit qu'en fait, le château fut pris d'assaut, mais préservé, alors que la ville autour de l'église fut totalement détruite. Nous perdons un peu la trace de notre prince noir le 18 août, mais on peut penser qu'il se rendit à la motte de Tersanne, qu'il prit le château et y passa la nuit. Le lendemain, 19 août, nous retrouvons le prince noir à Lussac-les-Églises. Dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Roger Drouot écrit simplement « Vers la fin de juin 1356, le prince noir, parti de Bordeaux avec son armée, traversa le Limousin et s'avança vers la Loire en suivant les frontières du Poitou. Une pièce du temps montre qu'il passa à Lussac le 19 août de cette année. » Et nous savons qu'il ne fit pas que passer. En effet, la chronique nous indique qu'à Lussac, on trouva d'abord une quantité de poissons et que la ville fut brûlée avant le départ du prince, le jour suivant, donc le 20 août. À 1500 mètres au nord de Lussac, sur les restes de la voie romaine, se trouve un monument, un bloc de pierre brute avec une croix gravée, dont on dit localement qu'il s'agit de la tombe d'un chevalier du prince. Nous poursuivons la chevauchée avec Peter Hoskins. Ayant quitté Lussac en ruine, l'escale suivante du prince fut Saint-Benoît-du-Sault, à 20 km au nord-ouest. La chronique nous dit que Saint-Benoît était une belle ville avec une abbaye où deux parents du seigneur de la Brette détenaient une grande quantité d'or et 14 000 écus. C'était donc une très bonne prise. Les hommes du prince noir prirent la ville et dès le lendemain, le dimanche 21 août, ils partirent vers Argenton-sur-Creuse. Mais là, nous nous éloignons de notre basse marche. En fait, le prince noir n'atteindra pas Bourges. Il sera contraint par les troupes françaises d'obliquer à l'ouest. On le retrouvera à Poitiers lors de la célèbre bataille du 19 septembre 1356, au cours de laquelle l'armée française sera battue et le roi de France, Jean II le Bon, fait prisonnier par les Anglais. Quelque temps après cette bataille de Poitiers, les Anglais réapparurent dans notre région. C'est Pierre Valadeau, dans sa notice historique sur la ville de La Souterraine, qui nous en fait récit. Désespérant de s'emparer de La Souterraine par un siège long et meurtrier, en raison des hautes murailles qui entouraient la ville, ils résolurent de la surprendre. Pendant la nuit, il n'y fallait pas songer, les ponts-levis étaient dressés et les guetteurs faisaient bonne garde. Le capitaine anglais dissimula donc sa troupe dans les bois et les replis de terrain avoisinant La Souterraine, attendant la pointe du jour pour mettre son projet à exécution. La consigne était de se jeter sur le portier de la première poterne ouverte à la circulation des allants et venants, de l'assommer et de s'introduire en masse dans la ville qui serait naturellement obligée de se rendre. Mais les Anglais avaient compté sans le hasard, ce grand maître des surprises. Une jeune fille de 20 ans, Jeanne Crosmoneau, l'aînée de 4 petits-enfants orphelins dont elle était le seul soutien, avait obtenu l'autorisation de sortir tous les matins, dès le jour naissant, pour aller à la cédelle laver le linge de ses frères. Et ce matin-là, pour le bonheur de ses concitoyens, elle était arrivée au lavoir bien plus tôt que de coutume. Le chef anglais l'aperçoit. Craignant qu'elle donne l'éveil, il s'élance sur elle, l'épée au poing, pour l'empêcher de crier. La jeune fille ne perd pas sa présence d'esprit. Elle a reconnu l'ennemi, elle n'a qu'un but, sauver la ville. Une idée lumineuse lui traverse le cerveau. Elle se met à rire, à chanter, à gambader et simule si bien la folie que l'anglais s'y laisse prendre et défend qu'on lui fasse du mal. Peu à peu, Jeanne s'approche de la poterne, arrive près du but, franchit le fossé d'un bond, lève le pont-levis et court sonner le tocsin en criant aux armes. Les habitants, prévenus du danger, se précipitent sur les remparts et se mettent en état de défense. Les Anglais, n'osant affronter la lutte, partent furieux et vont attaquer des châteaux du voisinage.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Songeons que cette chevauchée du prince noir en basse marche se situe en l'année 1356 et que l'épisode peut-être le plus connu de la guerre de Cent Ans, l'épopée de Jeanne d'Arc, se situe 73 ans plus tard en 1429. 6 ans après, le roi de France, Charles VII, conclut la paix d'Arras. Les Anglais sont dès lors inexorablement repoussés. Et en 1453, à la fin de la guerre de Cent Ans, il ne contrôle plus que Calais sur le continent français. Mais la paix finale ne sera signée qu'en 1475, 119 ans après la chevauchée du prince noir en basse marche. Prince noir qui, lui, était mort de maladie en 1376. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai intitulée aujourd'hui « La chevauchée du prince noir en basse marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Nicole Reynaud, de Peter Hoskins, de François Massicot, de Roger Drouot, de Pierre Valadeau et de Robert Chano. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à une série de musiques médiévales et en particulier à Tantes Gay que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.